Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique enregistrée à Nantes ce week-end à l'occasion de la 4e édition des Géopolitiques de Nantes, une initiative de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. L'Europe est-elle le continent malade de la mondialisation? La question se pose dans l'analyse des raisons qui ont poussé les Anglais au printemps dernier à décider de sortir de l'Union européenne. Brexit, fracture entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, peut-être aussi entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale, montée du populisme. Aujourd'hui, l'Europe est en panne de projet, elle qui fut pourtant la grande innovation institutionnelle de l'après-Seconde Guerre mondiale. Comment sortir de l'impasse alors que le vieux continent sait aussi qu'il ne peut peser et se faire entendre à l'international qu'à la condition d'harmoniser ses positions sur les grands débats diplomatiques, économiques et financiers? Après le Brexit, doit-on craindre l'effet domino? La mondialisation aura-t-elle eu raison de l'Europe? Pour répondre à ces questions, nos invités, Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, co-auteur avec Bastien Nivet, de « L'Europe peut-elle faire face à la mondialisation ?» paru aux éditions La Documentation Française. Bonjour.
Bonjour.
Alberto Toscano, journaliste et écrivain italien, auteur de plusieurs ouvrages, dont « Critique amoureuse des Français » paru chez Fayard. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Verluise, directeur du diploweb.com et auteur également de plusieurs ouvrages, dont Géopolitique de l'Europe, dont la dernière édition vient de paraître aux presses universitaires de France. Bonjour.
Bonjour.
Comment chacun voyez-vous l'Europe, 3 mois après le référendum anglais, favorable à la sortie du Royaume-Uni de l'Europe? Quelle analyse faites-vous de cette décision et quelles conséquences évaluez-vous, Sylvie Matelli?
Oui, alors 3 mois après, on voit pas beaucoup de changements parce que le référendum n'a pas conduit les Britanniques à demander à sortir immédiatement. Donc on attend et on est dans l'attente qu'ils saisissent cet article 50 et qu'ils se décident enfin à entamer les négociations. Donc je crois qu'on est dans une période d'incertitude qui aujourd'hui met un petit peu tout le monde, acteurs économiques inclus, sur la réserve et dans l'expectative. Qui pourrait peser à moyen terme, parce qu'évidemment, à un moment donné, l'incertitude, ça finit par éviter les prises de décision et donc par handicaper un certain nombre d'acteurs et de secteurs d'activité. Et puis, du côté de l'Europe, peut-être un positionnement un peu décevant des États qui, dans un premier temps, avaient semblé vouloir se rassembler, vouloir faire des propositions. Et on l'a vu très récemment à Bratislava, qui finalement se divise encore et toujours sur des choses peut-être pas fondamentales quand on voit l'état de doute et l'état de crise dans lequel l'Europe se situe aujourd'hui.
Alberto Toscano.
Le Brexit a été beaucoup moins dramatique de ce qu'on aurait pu imaginer, de ce que certains disaient. Et je rajoute, quelque part, malheureusement, dans le sens que Sylvie Matelli a totalement raison à dire que les États se sont divisés. Mmh. Or, le fait qu'on s'est trouvé face à une situation qui a été considérée comme gérable par les États n'a pas été le moteur pour pousser les États à renoncer à quelque chose de leur position traditionnelle, quelque part, pour utiliser un mot facile, on pourrait dire de leur égoïsme, pour faire un effort historique de rassemblement et d'intégration. On a géré le Brexit, il n'y a pas eu d'effet domino. Ce qui aurait pu être un événement dramatique s'est révélé comme un événement presque, je le répète, gérable. Et la réaction qu'on aurait pu souhaiter n'a pas eu lieu et on est en présence, une fois de plus, à une rafle de polémiques parfois stériles entre l'État sur la base de leur intérêt particulier plutôt que de l'intérêt commun européen.
Est-ce qu'il n'est pas encore trop tôt pour évaluer cette réaction? Et je me tourne vers vous, Pierre Verluise. Finalement, il y a quand même eu un effet de sidération. Ensuite, il y avait l'été, l'Europe partait en vacances sur les plages. Est-ce que ce qui était à craindre ou ce qu'on pourrait espérer n'est pas plutôt à venir, Pierre Verluise?
Oui, il faut du temps pour construire une analyse, voir les faits. Néanmoins, aujourd'hui, où en est-on? La construction européenne semble pour le moins en difficulté pour la raison suivante. La construction européenne, pour des raisons historiques, a été le fait des élites. Ces élites se sont accaparées le sujet parce que les populations, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, n'auraient pas vu aisément qu'on partage des éléments de souveraineté avec des pays avec lesquels on venait de se déchirer. Cela peut se comprendre. Mais le développement du populisme depuis la crise de 2007-2008 venue des États-Unis, qui a pour point commun, qu'il soit de droite ou de gauche, la détestation des élites, vient frapper comme un boomerang la construction européenne qui est le fruit des élites. Alors, je n'ai pas encore vu à cet instant, dans les caves ou dans les appartements, de citoyens européens se saisir à nouveau du sujet pour réinventer l'Europe. On est donc dans une situation où les élites sont discréditées, à tort ou à raison, c'est comme ça, et le projet est à réinventer.
Alors, j'ai cette question. Finalement, cette décision du Royaume-Uni, dont on va voir maintenant comment les choses vont se passer, selon quel calendrier les Britanniques travaillent beaucoup sur ces questions. Est-ce qu'on peut imaginer une ouverture sur des perspectives nouvelles? Est-ce qu'on peut y voir une opportunité? En d'autres termes, est-ce que finalement le Brexit peut être une chance pour l'Europe, Sylvie Matelli?
Et on le souhaiterait, on ne peut pas encore l'envisager en réalité parce que rien n'est clair et je crois que les positionnements des uns et des autres ne sont véritablement pas clairs. Évidemment que il faudrait aller dans cette direction, il faudrait entendre le peuple, il faudrait commencer à s'inquiéter plus largement qu'on ne le fait de la montée des populismes dans tous les pays d'Europe, somme toute, à quelques exceptions près, et encore, j'en trouve pas comme ça rapidement. Donc, il est nécessaire de bouger, il est nécessaire de repenser le projet. Mais la difficulté, c'est que nous sommes tous divisés sur ce projet, et tout le monde parle de projet, je crois que c'est une évidence, et bien avant le Brexit, nous sommes tous divisés sur le projet, le type de projet à mener, et même à l'intérieur des pays, je crois que rien ne fait l'unanimité, ou rien ne se dégage vraiment de tout le débat politique autour des questions européennes.
Alberto Toscano, vous réagissez comment à ce que vient de dire Sylvie Matelli, et puis j'ai cette question finalement. On a vu les Espagnols, d'une certaine manière, se réjouir, entre guillemets, en tout cas, voir l'opportunité de monter en grade en Europe, avec le départ annoncé donc du Royaume-Uni de l'Union européenne. En Italie, c'est la même chose.
Bah, partout en Europe, sans doute en Espagne, sans doute en Italie, mais aussi ailleurs, il y a des personnes qui disent aux Britanniques, tant mieux, partez, on fera sans vous. Oui, c'est un peu la façon de traiter un problème pour ne pas, en réalité, voir les difficultés réelles que ce problème cache. Une fois de plus, je suis d'accord avec Sylvie Matelli, donc je ne réagis pas à ce qu'elle a dit, mais je considère qu'aujourd'hui, quand même, l'Europe est dans une contradiction dramatique. D'un côté, nous avons une Europe qui aurait besoin de réformes, de propositions, de projets. Et ces projets devraient être ratifiés par le peuple. De l'autre côté, nous avons des peuples qui sont en ébullition totale parce qu'ils n'approuvent pas la politique de leur propre gouvernement. Et pour réagir à leur propre gouvernement, ils sont absolument prêts à dire non à toute proposition, et en particulier à des propositions qui regarderaient l'Europe. Alors, nous avons trois éléments. D'un côté, le besoin d'intégration de l'Europe. De l'autre côté, la démocratie des pays et les votes, parfois référendaires, dans les pays, et les gouvernements nationaux qui sont de plus en plus décrédibilisés. Et on a du mal à s'en sortir de là. Parce que si on dit « le peuple », doit s'exprimer. Alors le peuple dit non, mais il dit non à tout, pas que non à l'Europe.
Il faut dire aussi que le peuple, quand il s'est exprimé à plusieurs occasions, il n'a pas du tout été tenu compte du verdict des urnes. Donc il y a tout de même eu des défauts énormes de démocratie dans l'histoire récente de l'Union européenne, Alberto Toscano.
Vous parlez du traité de Lisbonne, évidemment. Et nous savons que le référendum français de 2005 a été un non à une question spécifique posée par un président de la République qui, en plus, avait été élu dans des conditions très particulières. Ça a été un non à une proposition. Ensuite, il fallait bien sortir. Oh, qu'est-ce qu'il fallait faire? Détruire l'Europe? La Constitution, la question était, approuvez-vous la Constitution européenne? Le peuple a dit non. La Constitution européenne n'a pas été approuvée. Mais il y a eu un autre traité. Ce traité a été approuvé par les parlements, ratifié par les parlements nationaux, comme la Constitution prévoit. Il n'y a eu rien d'illégal, il n'y a eu rien d'inconstitutionnel, il y a eu une situation en pétrin d'où il fallait bien sortir.
Vous écoutez RFI. RFI. Géopolitique.
Marie-France Chatin.
Alors, on développera sur ce qui est en cause, mais je vous passe justement la parole, Pierre Valluise, peut-être en réaction à ce qui vient d'être dit. Et puis, au-delà de cela, finalement, cette décision du Royaume-Uni, quelles conséquences sur la place de l'Europe dans le monde ? Pierre Valluise.
Je réponds tout de suite à cette question sur la place de l'Europe dans le monde, mais un mot sur ce que monsieur vient de dire. On peut remettre le curseur un peu plus en arrière. Les Irlandais, par deux fois, ont voté non. Par deux fois, on les a invités à dire « mais vous n'avez pas bien compris ». Ça n'était pas la réponse attendue. Au début des années 2000, c'est le traité de Nice auquel les Irlandais votent non. Et on leur dit « allez, partez en vacances. Changez-vous les idées, on va vous refaire une campagne, on va vous réexpliquer, on s'est peut-être mal exprimé, on va vous réexpliquer et vous êtes gentils, à peine 4 millions, vous n'allez quand même pas empêcher la machine de tourner ». Et un an plus tard, ils ont été suffisamment aimables pour accepter de changer d'avis. Même chose pour le traité de Lisbonne. Ils ont, au mois de juin, voté non et leur dit « vous avez mal compris, repartez en vacances, on va vous réexpliquer ». Et à l'automne, ils ont accepté de changer d'avis. C'est merveilleux. Merci l'Irlande.
Par contre, les Danois, en 92, ont voté non. Et non, ça a été. Donc, je crois que le changement de cap de la part de l'Irlande a été de toute façon exprimé par un vote démocratique. Ils auraient pu parfaitement voter non la deuxième fois. Le Danemark a refusé un deuxième référendum et il n'a pas adhéré à la monnaie unique. Il a bénéficié de la clause de l'opting out, comme la Grande-Bretagne, et il n'a pas l'euro. Donc, s'il y a un changement, il est respecté. S'il n'y a pas de changement, il est respecté aussi.
Donc, des signaux, finalement, de rupture entre les politiques et le peuple européen. Et il y en a eu plusieurs. Ils ont été nombreux, jamais écoutés. Et là, tout cela éclate au visage. Et la réalité s'impose. C'est cela qu'il faut lire aussi à travers ce référendum au Royaume-Uni, Pierre Valluise.
Et le poids géopolitique de l'Union européenne s'affaisse. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que la dynamique d'effacement de l'Union européenne était engagée avant le Brexit, et le Brexit vient rajouter une couche. Si on considère par exemple la population, qui est un paramètre clé quand même de la puissance, de l'économie, de la richesse, la population de ce que j'appelle l'espace UE28, c'est-à-dire l'UE28 avant l'UE28, en 1960, c'est 13% de la population mondiale. Aujourd'hui, nous sommes à peine 7%. Quelle dégringolade ! 13%, 7%. La production, le PIB. En 1980, l'espace UE28, c'est 31% du PIB mondial. Aujourd'hui, 18,3%. Et que se passerait-il si le Brexit devenait effectif ? Cet effacement serait accéléré. Le Royaume-Uni, c'est 65 millions d'habitants. L'UE tomberait à 443 millions d'habitants. Les perspectives démographiques à 2050 de cette UE27 bis, si elle restait ainsi sans le Royaume-Uni, c'est probablement moins de 5% de la population de la planète, 4,5% peut-être. Si nous nous imaginons qu'à 4,5% de la population de la planète, nous allons être les patrons, il va falloir bosser. Concernant le PIB, le Royaume-Uni, c'est 14% du PIB de l'UE. Vous retirez le Royaume-Uni, le PIB de l'UE 28 à 27 maintenant, c'est 86%. On est derrière les États-Unis, derrière la Chine. Donc là aussi, il va falloir investir en R&D, il va falloir être compétitif, inventif, organisé, avoir une politique industrielle enfin. On a une politique agricole formidable, on n'a pas de politique industrielle, c'est extraordinaire, ça n'a aucun sens. Il va falloir enfin avoir une vraie stratégie, une vraie géopolitique de l'Union européenne. Jusqu'ici, on a fait comme si on vivait dans un monde de bisounours, comme si on pouvait descendre du train et regarder la mondialisation passer alors que nous avons d'énormes atouts. Donc oui, le moment est grave, oui, il serait temps de redresser la situation.
Donc une dégringolade de l'Europe, ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle, Sylvie Matelli.
Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter les chiffres. Faut se rappeler que la Chine, c'est 20% de la population mondiale, voire un petit peu plus. Et puis, ça reste aujourd'hui, malgré les progrès de la Chine, 13% du PIB mondial, alors que l'Europe, avec ses 7%, réalise, alors suivant les chiffres, hein, parité de pouvoir d'achat ou autre. Mais je vais prendre le chiffre le plus flatteur, on va dire, qui est un petit peu plus élevé que le vôtre. C'est 24,3% en 2015 du PIB mondial. Donc, on est sur des chiffres qui sont certes en déclin, avec un déclin qui a été amoindri pour l'Europe par rapport aux États-Unis, dans une perspective de globalisation. Les États-Unis ont dégringolé beaucoup plus vite en fait en part de PIB, surtout depuis les années, ça dépend également
de la référence, mais surtout depuis l'après-guerre. Donc de ce point de vue-là, effectivement, ça peut être inquiétant, mais il faut aussi regarder peut-être le bon côté de la chose, c'est qu'il y a de plus en plus de pays qui participent à cette mondialisation. Et la question, c'est la question de savoir, au fond, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la richesse d'un pays ou la richesse d'une région. Dans un monde global, je ne suis pas sûre que ce soit des stocks de population, des stocks de territoire. Je pense que les flux et les flux commerciaux, les flux financiers sont peut-être tout aussi pertinents, donc peut-être à intégrer dans l'appréciation que l'on fait de l'Union européenne. Et c'est vrai que l'Union européenne a été un formidable moteur de développement et d'ouverture au commerce international et aux flux financiers internationaux. C'est la première région en termes d'attractivité des investissements directs étrangers. C'est un géant commercial aux côtés de la Chine, bien évidemment. Donc ça, c'est un élément intéressant. Par contre, là où M. Verluise a tout à fait raison, c'est que, et ça rejoint l'idée que nous manquons d'un projet européen, c'est que les États européens ont un peu abandonné le sort de l'Europe, le sort des Européens à cette mondialisation tant décriée. En réalité, de quoi s'agit-il, hein ? Il s'agit d'un désengagement des États. On a laissé le libéralisme et la liberté prendre le dessus sans maîtriser totalement le process, ce que n'ont pas du tout fait nos partenaires commerciaux, États-Unis en tête, avec un certain nombre de lois, de politiques qui ont permis d'orienter l'économie américaine pour qu'elle soit plus prospère dans un monde global.
L'Europe ne s'est pas suffisamment protégée, c'est vraiment, Alberto Toscano, l'ultra-libéralisation qui est en cause dans cette décision du Royaume-Uni ?
Dans la décision du Royaume-Uni, il est en cause mentalité d'une partie de la population britannique, mentalité de tout à fait légitime, influencé par des pulsions populistes, comme quoi les Britanniques seraient beaucoup mieux tout seuls que dans l'intégration européenne. Ils étaient libres de choisir, ils ont choisi, tournons la page. D'autres équilibres seront construits. Il y a plusieurs façons de faire l'Europe. Il y aura probablement demain trois Europes, une Europe plus large avec la Suisse, la Norvège et le Royaume-Uni, avec des traits communs, des intérêts communs et des points de convergence importants. Il y aura l'Europe à 27, l'Union européenne que nous connaissons, avec un Parlement, une Commission européenne, le Conseil des ministres. Et il y a la zone euro qui est, elle, probablement dans une dynamique fédérale. Mais pour continuer sur ce chemin, il faut une volonté précise et cette volonté, aujourd'hui, manque. Parce que les Européens sont capables de se rassembler dans les moments critiques. Ils ont du mal à se rassembler, à regarder loin, quand ils ne sont pas au bord du ravin, au bord de la catastrophe. Malheureusement, nos gouvernements, rarement, ont été si peu clairvoyants qu'aujourd'hui. Et le défi est là, le problème est là, et à partir de ça, avec ça, il faut être capable de se mesurer. Ceci dit, pour continuer sur ce que Sylvie Metelli disait, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement un problème de peu de confiance en l'Europe, aux institutions européennes de la part des populations. Il y a aussi peu de confiance dans la démocratie elle-même. Pendant la conférence qu'on a eue, M. Verluise a cité la baisse de la participation aux élections pour le Parlement européen. Il y a mille et une démonstrations de méfiance. Vous savez, pour nos pères et grands-pères, la liberté était une conquête. Pour nos enfants, la liberté est normale, comme l'air, comme l'eau courante. On ne doit pas conquérir la liberté. On l'a. L'Europe a été, et la démocratie dont nous bénéficions ont été le résultat de conquêtes. Mais pour les nouvelles générations, il n'y a pas la perception de l'importance de ces conquêtes et dont la démocratie en tant que telle, même indépendante de l'Europe, a du mal à se renouveler, à se revivifier, à se relancer.
Pierre Verluise, pour terminer cette première partie d'émission.
La question intéressante, c'est où est-ce qu'on met le curseur entre les intérêts nationaux, voire les intérêts des métropoles, des régions, et les intérêts de l'Union européenne. Quels sont les transferts de souveraineté qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas? Quelle est la stratégie qu'on met derrière dans une Union européenne qui est en difficulté? Alors oui, c'est vrai, le poids des États-Unis a diminué, lui aussi, mais dans une proportion un peu moins drastique que l'UE, sous l'effet, c'est vrai, des émergents. Les émergents, on les connaît, c'est le Brésil, l'Inde, la Chine, notamment.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission cette notion de curseur entre intérêts nationaux et intérêts européens. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Sylvie Metelli, Alberto Toscano et Pierre Verluise, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, l'Europe est-elle le continent malade de la mondialisation? Une question qui se pose dans l'analyse des raisons qui ont poussé les Anglais au printemps dernier à décider de sortir de l'Union européenne. Nous retrouvons nos invités, Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, co-auteur avec Bastien Nivet de l'Europe peut-elle faire face à la mondialisation, paru aux éditions La Documentation française, Alberto Toscano, journaliste et écrivain italien, auteur de plusieurs ouvrages, dont Critique amoureuse des Français, paru chez Fayard, et Pierre Verluise, directeur du diploweb.com et auteur également de plusieurs ouvrages, dont la dernière réédition de Géopolitique de l'Europe qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Pierre Verluise, on a quitté la première partie de l'émission et vous évoquiez la question de savoir où on plaçait le curseur entre intérêts nationaux et intérêts européens. C'est l'un des défis.
C'est l'un des défis. J'attire l'attention sur deux petites musiques qu'on entend toujours chaque fois qu'il y a une crise concernant l'Union européenne. La première petite musique, c'est de dire « je vous l'avais bien dit ». Ça ne pouvait pas être autrement. Depuis le début, cette affaire est mal emmanchée. Donc on arrête tout, on casse tout, on revient à l'Europe des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, comme si c'était possible. Bref. Deuxième discours, mais oui, vous avez raison, il y a une difficulté, mais c'est en faisant plus de transferts de souveraineté qu'on va trouver la solution ensemble. Donc transférons davantage. Donc ça, c'est le discours fédéraliste. Mmh. Alors, moi, je ne prends pas position ni pour l'un ni pour l'autre, je ne suis pas un idéologue. J'attire l'attention simplement sur le fait que c'est curieux qu'on entende toujours ces deux petites musiques. Alors peut-être que la solution, en admettant qu'il y en ait une, elle est ailleurs. En tout cas, on ne peut pas, dans un espace qui se veut démocratique, faire abstraction du débat. Et le problème de fond, c'est qu'on a construit l'Union européenne en évitant de poser les vraies questions, en évitant d'inclure réellement les populations, en se disant « Allez, cette fois-ci, on s'autorise encore à ne pas demander l'avis, mais c'est promis, c'est la dernière fois qu'on le fait. La fois prochaine, on leur demandera ce qu'ils en pensent. » Alors, à force, comme disent les enfants, ça finit par casser.
Alberto Toscano.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Verluise a dit, mais je voudrais faire une précision au sujet de la question eurozone. Là, de la zone euro, il n'y a pas une question de trouver le transfert des responsabilités et de pouvoir des États nationaux à la zone euro comme solution au problème. La zone euro est déjà dans une dynamique de transfert des États nationaux à une situation intégrée. Il faut adapter, parce que le choix de fond de l'euro a été fait. Et d'ailleurs, dans le cas français, il a été approuvé par un référendum populaire. Donc, il faut prendre en compte les conséquences d'un choix d'intégration qui est fait, qui est objectif. Aujourd'hui, le fait qu'on soit au milieu du gué est un problème. On ne peut que poursuivre vers l'intégration.
Sylvie Matelli.
Oui, alors je vais m'exprimer très vite sur les questions de souveraineté, parce qu'étant économiste, c'est pas mon domaine et je ne dirai que des bêtises. On est quand même face à un réel paradoxe avec des États au niveau national qui doivent décider de lâcher une partie de leur souveraineté à la construction européenne, ce qui veut dire pour eux de perdre le pouvoir. Donc on comprend très bien qu'ils se positionnent et qu'ils instrumentalisent l'Union européenne pour justifier de garder le pouvoir et d'éviter de renverser la tendance. Juste une petite illustration. Lorsqu'on a construit l'euro, la question était essentiellement politique. Et nombre d'experts, nombre d'économistes avaient dit, mais y compris dans les années 60, avant même qu'on pense à une monnaie européenne, que les conditions n'étaient pas réunies pour construire une zone monétaire dite optimale, c'est-à-dire qui fonctionnerait et qui éviterait un certain nombre de déséquilibres, tout ce que l'on observe aujourd'hui dans le cadre de la zone euro. Personne ne les a écoutés. Pourquoi ? Parce que l'une des options qu'il fallait choisir, c'était de lâcher de la souveraineté sur la politique budgétaire et sur la politique fiscale. Il était bien évident qu'aucun État n'allait accepter de lâcher là-dessus, n'allait accepter une politique budgétaire qui eût été menée par l'Union européenne avec un budget beaucoup plus conséquent, donc en plus de payer beaucoup plus cher que ce qui ne le faisait aujourd'hui. Et je crois que là, on est face à la réelle problématique de l'Union européenne. Est-ce qu'on veut véritablement construire une Union européenne ou est-ce qu'on arrête tout de suite parce que chaque homme politique a décidé de préserver son pouvoir?
Ça, c'est la question essentielle et je vous la pose, Pierre Verluise. En tout cas, ce que moi j'entends de ce que vous avez dit chacun, c'est que finalement, l'Europe, depuis le début, s'est faite sur une idée politique, que tout n'a été que politique et on se retrouve aujourd'hui avec ce décalage entre l'idée politique et puis la réalité du terrain. Et c'est le grand écart. Pierre Verluis.
Oui, une construction politique qui passe quand même par l'économique pour éviter de parler du politique. Donc c'est là où ça devient subtil et complexe. Pour donner un deuxième exemple de ces contradictions des États membres dans la construction européenne, le projet de traité constitutionnel prévoyait un ministre des Affaires étrangères européennes. Grâce aux non-français de 2005, nos amis britanniques, qui sont d'excellents diplomates, ont, pour parler poliment, modifié le texte qui devient le traité de Lisbonne et inventé un poste dont personne n'est capable de mémoriser l'intitulé complet de haut représentant de la politique étrangère et de sécurité commune. J'espère ne pas m'être trompé, sinon pardon. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que donc on crée ce poste, on crée un service européen pour l'action extérieure, si je ne me trompe pas, qui n'est plus le service diplomatique qui était prévu précédemment, ce qui montre que la Commission n'est pas un État, c'est ça le sens. Et puis derrière, qui choisit-on pour être le premier titulaire? Une dame tout à fait remarquable, je n'en doute pas un instant, qui n'a aucune expérience de la diplomatie. C'est magique, Madame Ashton.
Il fallait qu'elle ne fasse pas d'ombre au service diplomatique de chacun des États, on l'a bien compris.
Fort heureusement, chacun l'aura compris, on lui a mis en numéro 2 un Français. Monsieur l'ambassadeur Pierre Vimon, brillantissime, c'est vrai, il n'en demeure pas moins que ce choix montre bien les contradictions. À la fois, on crée un poste dont on change l'intitulé, et en même temps, on cherche quelqu'un qui n'a aucune expérience pour être le premier titulaire et créer le service. Madame Mogherini, qui est maintenant à la manœuvre, elle a une expérience plus importante en matière de politique étrangère, il était temps.
Alberto Toscano. Non,
je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Verluis vient de dire. Il y a des problèmes, des contradictions, des révélateurs d'une crise évidente de l'Europe. En même temps, faisons attention quand nous sous-estimons l'importance de l'euro. C'est vrai, l'euro a été choisi pour une raison politique, on le sait parfaitement, Sylvie Matelli l'a dit. Moi, personnellement, j'ai un témoignage direct, parce qu'en tant que correspondant de la presse italienne en France, j'ai fait tous les voyages de François Mitterrand, sauf un, en 89, pendant le semestre de présidence française de l'Union européenne, de la Communauté européenne, qui était celui qui a vu la chute du mur de Berlin. Donc, je me souviens des débats qui étaient faits par ses collaborateurs avec les journalistes, des rencontres, des conversations, et le choix de la monnaie unique qui a amené tout d'abord au sommet de Strasbourg de décembre 89 et ensuite au sommet de Maastricht de décembre 91 et ensuite au traité de Maastricht ratifié en 92. Ce chemin a été motivé par une raison politique et notamment par la détermination absolue de François Mitterrand d'imposer à l'Allemagne de renoncer au Deutschmark pour montrer sa détermination à poursuivre sur le chemin de l'intégration européenne après sa future mais escomptée réunification et après la chute du mur de Berlin. Donc tout était clair. Ceci dit, où est-ce qu'on serait aujourd'hui face aux crises qu'on a vues si on n'avait pas eu la monnaie unique? Bien sûr, on ne fait pas l'histoire avec les si, avec le conditionnel et tout ça, mais interrogeons-nous aussi sur ça. La monnaie unique, quand même, a été un rempart vis-à-vis de certaines crises. La dévaluation de la lire, par exemple, pour toucher un sujet que je crois connaître un tout petit peu, qu'on a vu début années 90, où elle aurait pu arriver, la peseta, les parités, le franc français par rapport au Deutschmark, on serait entré dans une phase d'anarchie probablement totale. Et l'Europe elle-même aurait été parcourue par une tempête financière, économique, aux conséquences peut-être même politiques plus graves de celles que nous voyons aujourd'hui et probablement bien plus graves.
Sylvie Matelli.
Oui, je voudrais juste rajouter un mot à ce que nous venons de dire. Je crois qu'on oublie, ou on ne sait pas, qu'un certain nombre de politiques menées, décidées grâce à l'euro au début des années 2000 n'auraient pas été possibles. Je pense aux 35 heures en France qui auraient été infinançables. La dette publique, par exemple, aurait un impact beaucoup plus catastrophique aujourd'hui dans les pays européens sans l'euro, parce qu'avec des financements à des taux d'intérêt extrêmement élevés, alors que grâce à l'euro, en France par exemple, le financement de la dette publique est rendu beaucoup plus soutenable.
Donc, si je vous ai bien compris, chacun, l'euro, pilier de l'Europe aujourd'hui, en tout cas, on n'en serait pas là où nous en sommes aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet euro qui semble être le ciment. On va aller plus loin. Est-ce que c'est précisément
la phrase, excusez-moi, de Woody Allen, la vie est horrible et en plus elle est trop courte. L'euro horrible et on voudrait encore plus d'euro.
Alors, Est-ce que, justement, c'est sur la zone euro qu'il faut s'appuyer? On peut rappeler pour nos auditeurs que ce sont 19 pays sur les 28 moins 1, puisque le Royaume-Uni est en train de partir et qui, de toute façon, ne faisait pas partie de la zone euro. Donc, 19 pays sur les 28, les 27 aujourd'hui. C'est sur cette zone euro qu'il faut s'appuyer pour repenser l'Europe de demain, puisqu'il y a un véritable examen de conscience, en tout cas, qui est à faire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où va-t-on? Alors, je ne sais pas qui veut commencer, Alberto Toscano.
L'euro est le noyau de l'Europe future, dans le sens que les traités qui ont été signés pour l'euro, par exemple le traité fiscal, prévoit de la vigilance mutuelle et des autorités européennes sur les politiques budgétaires, dont il y a besoin d'une politique budgétaire commune, d'une politique économique. En même temps, l'euro est au milieu du guet. Aujourd'hui, c'est la méfiance entre pays de la zone euro à prévaloir. L'échange de capitaux d'un pays européen à l'autre, d'un pays de la zone euro à l'autre, n'ont jamais été si faibles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment la méfiance. On est dans une situation insoutenable. On a l'euro et on ne peut pas revenir en arrière sur l'euro, sauf accepter des conséquences qui seraient réellement dramatiques.
Il ne peut pas exploser.
Mais c'est on cela... a du mal à avancer. Donc, la crise est réelle.
Sylvie Matilly.
Oui, je ne sais que rajouter, effectivement, c'est un peu pour continuer dans les comparaisons, la voiture qui est en panne en fait, et on sait que il faut continuer de rouler avec cette voiture et on ne sait pas trop comment réparer, effectivement.
Vous écoutez RFI.
Alors, avant d'en venir aux solutions, s'il y en a, les remèdes, les défis, dans un premier temps, j'aimerais que l'on s'arrête quelques instants sur le couple franco-allemand. Qu'est-ce qu'il faut en attendre, Pierre Verluise?
Le couple franco-allemand, c'est une vieille histoire. Et comme toutes les vieilles histoires, elle a ses pages de gloire et ses pages plus sombres. Alors, les pages de gloire, on les connaît, c'est 1963, le traité de l'Elysée, un calcul de la part du général de Gaulle, qui est un peu contrarié par le fait que les Allemands rajoutent un préambule au traité de l'Elysée, qui change le sens de ce traité et qui met en colère le général de Gaulle. Les mémoires de Perfitte en témoignent. Mais c'est aussi, depuis les années Nicolas Sarkozy, une dynamique où on voit bien que c'est l'Allemagne réunifiée, ce qui était un peu la crainte de François Mitterrand, qui explique le passage à l'euro, pour revenir à ce que disait mon prédécesseur. Eh bien, depuis les années de Nicolas Sarkozy, c'est plutôt l'Allemagne qui a l'ascendant. Il y a eu un événement majeur, c'est l'émasculation du projet d'union méditerranéenne de M. Nicolas Sarkozy, transformé en Union pour la Méditerranée, reformaté complètement différemment sous l'angle institutionnel, sous l'angle géographique, et qui échappe à la France, et que par ailleurs, l'actualité de l'opération israélienne plomb durci, puis des printemps arabes, vient complètement mettre en difficulté. Mais l'essentiel, c'est de considérer que l'Allemagne, depuis les années Nicolas Sarkozy, globalement à l'ascendant. Mmh. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la crise économique et monétaire, le calendrier des mesures prises pour contrer cette crise économique et monétaire a été défini comme les périmètres par l'Allemagne, qui s'est permis, pour des raisons de politique intérieure, de perdre, entre guillemets, parfois 6 mois, parce que pour Mme Merkel, c'était pas possible à ce moment-là, c'était pas possible, donc on attendait.
Alors, si c'est l'Allemagne qui a l'ascendant, j'ai cette question, finalement, avec la décision des Anglais au printemps dernier, est-ce que, Alberto Toscano, la France perd un partenaire?
La donnée a changé, dont l'Allemagne est réunifiée, comme ça a été très bien dit, à un poids particulier. Dans l'Europe actuelle et dans la zone euro actuelle, vous avez bien compris que moi, je tiens beaucoup à la zone euro. Il y a aujourd'hui un besoin de rééquilibrage par rapport à l'Allemagne. Si nous prenons les parts de la Banque Centrale Européenne, du capital de la Banque Centrale Européenne, en gros, un quart est dans les mains de l'Allemagne, la moitié est ensemble, si on calcule le total, de France, Italie, Espagne, et l'autre quart est dans les mains des autres 15 pays. Or, France, Italie et Espagne ont tout l'intérêt à rechercher une position commune, une stratégie commune vis-à-vis de l'Allemagne, qui est une stratégie basée plus sur la recherche des investissements, sur une politique anti-austérité, que sur une politique d'austérité et de force de la monnaie. Parce que l'Allemagne exporte, même avec une monnaie forte, France, Italie et Espagne ont intérêt à suivre une stratégie différente. Et le problème est que la France se trouve quelque part tiraillé entre l'hypothèse de rechercher un rééquilibrage devant l'Allemagne et l'hypothèse de bénéficier des avantages, notamment sur le déficit. Mmh. La France, depuis des années, a un déficit au-delà de ce qui serait admis par les traités. Et tout ça est accepté par Bruxelles. Permettez-moi de dire, probablement aussi grâce à une bonne parole de la part de l'Allemagne. Donc, la France doit choisir entre créer un contrepoids vis-à-vis de l'Allemagne ou être la bénéficiaire de la bienveillance allemande, mais dans une position objective d'infériorité par rapport à l'Allemagne.
Sylvie Matelli.
Oui, je vais rebondir sur ce que disaient Pierre Verluise et Alberto Toscano, et je suis d'accord avec eux. Je crois que l'Allemagne a pris l'ascendant, effectivement, dans la logique aussi d'un changement de génération. Et donc, on a tourné la page d'une histoire en Allemagne, et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on ne reviendra pas en arrière. Quand bien même la France aurait des succès économiques, il la positionnerait de manière un petit peu plus équitable vis-à-vis de l'Allemagne, on ne reviendra pas en arrière sur la relation franco-allemande. Et dans l'absolu, l'Allemagne n'a pas besoin de la France. Le modèle économique allemand est à défendre. C'est un modèle économique allemand qui est fait de réussite commerciale ou en tout cas par rapport à la mondialisation. Donc l'Allemagne n'a pas besoin de la France et se positionne comme ça. C'est intéressant de parler du couple franco-allemand en Allemagne parce qu'on a une vision qui est totalement décalée par rapport à ce qu'en disent les Français. Mais par contre, l'Allemagne a pris conscience dans cette crise qu'elle prenait d'énormes risques à ne faire qu'imposer sa vision des choses. Et c'est en ça que l'Allemagne cherche l'aval des Français ou un oui des Français à différentes décisions. Rappelez-vous, la visite de Madame Angela Merkel, ça devait être en 2012 quand elle est allée faire un petit tour en Grèce et comment elle a été particulièrement mal reçue par les Grecs. Il faut se rappeler que l'Allemagne vit quasiment un miracle économique sur ses, encore une fois, sur ses performances macroéconomiques, parce qu'après il y a tout un ensemble de problèmes, grâce à l'euro. Rappelez-vous, le début des années 2000, c'est la France et l'Allemagne, qui ne respectant pas le pacte de stabilité, ont expliqué que ce pacte de stabilité était bien contraignant et ne servait pas à grand-chose et qu'on pouvait finalement s'en exonérer. Donc on était dans une situation au début des années 2000 économique qui pouvait rapprocher par des intérêts communs la France et l'Allemagne. On est dans une situation qui est complètement à l'opposé de ça aujourd'hui.
Une dernière question pour laquelle je vous demanderai d'avoir une réponse assez concise. Le temps nous contraint. Est-ce que vous êtes optimiste chacun quant à la capacité de l'Europe à se repenser. Qui commence ? Alberto Toscano.
Décembre 72, le ministre des Affaires étrangères du Vietnam du Nord est arrivé à Paris et on lui a demandé « Est-ce que vous êtes optimiste ?» Il a dit « J'ai l'optimisme révolutionnaire ». Mais c'était juste avant le grand bombardement américain sur Hanoï. Oui, on a l'optimisme philosophique. On a la certitude qu'une nouvelle Europe doit naître. On a la certitude qu'on peut pas rester au milieu du guet. Et moi, personnellement, j'ai la certitude qu'on peut pas revenir en arrière sur l'euro. Donc, au moins, la zone euro doit aller de l'avant.
Pierre Verluise.
Toutes les formes politiques à travers les millénaires et les espaces ont évolué. Aucune forme politique, à ma connaissance, n'est restée à travers les millénaires stable, sauf peut-être le Vatican, presque deux millénaires. Donc, cela veut dire que rien n'est fixé dans le marbre et que, par définition, ça doit évoluer, ça évoluera. Pour faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, on est passé d'un fédéralisme monétaire à un fédéralisme budgétaire. Et ce que je regrette, c'est que ça n'ait pas fait lieu d'un débat démocratique.
Sylvie Matelli, très rapidement.
Oui. Je crois que si on revient un petit peu en arrière sur le XXe siècle, il s'est passé beaucoup de choses dramatiques. Et il y a une chose qui a été formidable, c'est la construction européenne. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Alors j'aimerais bien être optimiste. J'aimerais bien croire qu'on se souviendra de ça et qu'on retiendra les leçons de l'histoire. Malheureusement, je ne répondrai pas à votre question.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci Sylvie Matelli. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de l'IRIS et co-auteur avec Bastien Nivet de « L'Europe peut-elle faire face à la mondialisation ?» aux éditions La Documentation française. Merci aussi Alberto Toscano, journaliste et écrivain italien, également auteur de plusieurs ouvrages, dont « Critique amoureuse des Français » paru chez Fayard, et Pierre Verluise, directeur du diplweb.com et auteur également de plusieurs ouvrages, dont le dernier dans sa nouvelle édition Géopolitique de l'Europe aux presses universitaires de France. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat, émission signée Marie-France Chatin et Marc Fichet à Nantes, Nathalie Laporte à Paris. Samedi prochain, Géopolitique sera consacrée à la politique américaine au Proche-Orient. À très bientôt.